Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alors comme vous le savez, c'est le salon de l'agriculture. L'agriculture française est saluée dans le monde comme un modèle à suivre. Sa production s'arrache à l'international. Les Français se précipitent cette semaine et comme chaque année au salon de l'agriculture. Et les politiques rivalisent de déclarations d'amour à l'égard des agriculteurs. Tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour l'agriculture nationale. Et pourtant, l'ambiance est très morose. Agriculteurs incapables de se verser un salaire digne de ce nom, suicide d'exploitants, polémiques incessantes sur les pesticides, consommateurs avides de bio mais allergiques à la dépense, guerre des prix menée par les distributeurs, menace de réchauffement climatique. Bref, le malaise agricole français appelle-t-il à une évolution ou à des révolutions? Pour répondre à cette difficile question, je suis en votre compagnie, Marc Dufumier. Bonjour, vous êtes agronome, professeur honoraire à l'AgroParisTech et président de Commerce Équitable France. Vous avez notamment publié « L'agroécologie peut nous sauver » aux éditions Actes Sud. Pourquoi un tel malaise aujourd'hui dans l'agriculture française, Marc Dufumier?
Alors effectivement, d'abord la question des revenus des agriculteurs, c'est dérisoire.
Il faut peut-être rappeler quelques chiffres, parce qu'à chaque fois qu'on les lit, on est tout à fait frappé par l'incroyable modestie de ces rémunérations, parfois 300 à 400 euros après avoir tout payé.
Oui, pour certains, et un niveau d'endettement absolument considérable. Des gens ont investi dans des moissonneuses-batteuses pour les uns, dans des robots de traite pour les autres. Ils n'arrivent plus à payer, à rembourser les emprunts. Et au moindre petit accident climatique ou sanitaire et autres, c'est la catastrophe. Et ça explique un peu, notamment ce taux de suicide dont vous parliez tout à l'heure.
Mais alors, justement, ça c'est quelque chose qui me frappe et qu'il faut peut-être expliquer aux auditeurs. L'activité agricole, elle suppose en fait des revenus importants pour financer des investissements, parce que les investissements ils sont colossaux. C'est une activité qui est très gourmande en capitaux pour la terre et pour les machines. Les machines agricoles valent des fortunes alors même que les rendements agricoles sont bas. Est-ce nouveau, Marc Dufumier?
Alors les rendements agricoles peuvent être élevés, mais les coûts de production, un blé à 90 quintaux à l'hectare aujourd'hui, ça coûte très cher en pesticides, en engrais de synthèse et autres. Et puis les niveaux d'équipement aussi, oui, sont considérables. On a encouragé les agriculteurs à pratiquer une agriculture un peu qu'on qualifie d'industrielle, qui s'est inspirée de l'industrie, produire à grande échelle, à un coût toujours moindre, produire des produits de masse, qui sont parfois quand même des produits bas de gamme. Quand vous disiez l'agriculture française est louée, c'est effectivement dans les deux tiers de notre excédent de la balance commerciale, c'est quand même les vins, les fromages, les spiritueux, les produits d'appellation d'origine contrôlée, les produits bio. Mais il y a aussi des produits issus de l'agriculture industrielle qui trouvent parfois des difficultés à se vendre. Vous savez, la poudre de lait, on voit la couture de déshydratation du lait à carré qui est en faillite. Enfin, je veux dire, les Chinois se retirent.
Oui, alors c'est effectivement pas la seule filière. La volaille française a beaucoup de problèmes. Comment vous expliquez
cela? Des poulets bas de gamme, écoutez, élevés avec du maïs et du soja brésilien pour être exportés vers l'Arabie Saoudite, pouvait-il être compétitif avec des poulets brésiliens? Nous le savions déjà. Toutes ces choses-là avaient été prédites un peu il y a une quinzaine d'années.
Mais alors pourquoi ça a marché pendant si longtemps? Parce que finalement, c'est ça aussi la question qu'on se pose. S'il y a eu une agriculture à ce point extensive, avec différents types d'exploitations en Bretagne, vous l'évoquez, mais pas seulement. Pourquoi ça marchait si longtemps, Marc Dufumier?
Alors, c'est un peu les subventions. Il y a eu une politique des prix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui consistait à nous protéger, au contraire, des importations de céréales en provenance du Nouveau Monde ou des mottes de beurre en provenance de Nouvelle-Zélande. Et quand nous sommes devenus excédentaires, l'Europe des 6, 8, 15, plutôt que de mettre des quotas, on en a mis un peu vite sur le sucre, beaucoup trop tardivement sur le lait, jamais sur les céréales. Et du coup, quand les agriculteurs ont dû s'aligner sur les prix internationaux, on a mis des subventions qu'on disait compensatoires de la baisse des revenus. Et on a en fait encouragé les agriculteurs à produire toujours la même chose. Alors que nous aurions dû produire ce dont nous sommes extrêmement déficitaires. Vous savez, les protéagineux, les plantes productrices de protéines.
Par exemple,
La luzerne, le trèfle, le sainfoin, les lotiers pour nourrir des vaches, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les petits pois pour nourrir des hommes, la févrole, le lupin pour nourrir les cochons.
On est déficitaire en petits pois, en pois chiches.
Alors, pour les légumineux, d'une façon générale, on est déficitaire pour les deux tiers en France. L'Europe des 28 est déficitaire pour les trois quarts. Nous importons du soja, du tourteau de soja pour nourrir nos animaux. Et même, parfois, le haricot, les petits pois, les lentilles, par exemple, on importe du Canada. Oui, nous sommes extrêmement déficitaires. Et ces plantes ont l'avantage, je vous dis tout de suite, non pas seulement de nous fournir des protéines directement sans qu'on ait à les importer, mais comme ça fertilise le sol en azote pour la betterave ou le céréal qui viennent dans la rotation, ça nous évite les engrais azotés de synthèse, eux-mêmes très émetteurs de protoxyde d'azote, et ça nous évite, quand pour fabriquer les engrais de synthèse, de devoir importer du gaz naturel russe. Donc oui, il y a urgence de retrouver une plus grande autonomie en protéines et cesser la surproduction de produits bas de gamme.
Mais ça, c'est quand même un peu étonnant, parce que les agriculteurs n'arrêtent pas de dire que l'État français les a spécialisés, on a fait un peu ce qu'on voulait faire d'eux, on les a, par exemple, autour de Cahors, on leur a dit au début de faire des fraises, puis on leur a dit de faire du vin, puis le vin autour de Cahors est aujourd'hui un vin qui a beaucoup de soucis. Donc ça signifie que l'État s'est mêlé des productions agricoles. Pourquoi l'État a-t-il mal orienté la production de ses agriculteurs, Marc Dufour?
Alors on leur a dit, c'est un peu l'État à travers la politique des prix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des subventions ultérieurement, mais c'est aussi la grande et moyenne distribution qui dit, moi je veux des produits standards, s'il vous plaît, une matière première. L'agro-industrie aussi a dit, moi je veux, j'ai robot mes processus de transformation, je veux une matière première. Rappelez-vous qu'on a réussi ce tour de force à mettre quand même du cheval dans les lasagnes de bœuf. Hein. L'entreprise avait dit, écoutez, on s'est trompé de minerai. Vous voyez, on parle de matière première agricole, alors que pour les agriculteurs, c'est un produit fini, quoi. C'est insultant pour les agriculteurs.
Le minerai, c'est la viande hachée.
Le minerai, oui, c'est la viande hachée, oui, voilà, la bauxite, quoi. Bon, non, les agriculteurs méritent mieux que de vivre comme des mendiants avec des subventions à qui on donne un cahier standard. Alors qu'il y a des solutions alternatives, on va dire un peu inspirées de l'agroécologie scientifique, qui permettraient en France de produire moins, mais mieux, et peut-être de moins exporter de produits bas de gamme et de moins ruiner les basses-cours dans les pays du Sud.
Oui, mais alors, dans le même temps, il y a aussi un phénomène évident, c'est qu'on a expliqué aux ménages français qu'ils allaient pouvoir se nourrir pour des sommes de moins en moins importantes. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est environ 13% du budget d'un ménage. Ça veut dire qu'en fait, on est passé à un poste qui est inférieur à celui des transports. Et donc, peut-être qu'on en a, en quelque sorte, pour notre argent, Marc Dufumier, si on mange du minerai.
Alors, très juste, dans un premier temps, c'est vrai que la part de l'alimentation dans notre budget a diminué. Mais seulement, on découvre aujourd'hui que le lait pas cher nous coûte très cher, parce que il faut payer des impôts pour retirer les algues vertes des littorales bretons, que le pain pas cher nous coûte très cher, parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine et de désherbant dans l'eau du robinet, écoutez, l'eau potable, c'est pas donné gratuitement. Donc les coûts ne sont plus dans le prix du produit tel qu'on le trouve dans une espèce de supermarché, mais dans des coûts, les économistes disent externalités négatives, des coûts cachés, mais que nous payons tous, à travers des impôts, des sanctions et autres. Oui.
Qu'est-ce que vous préconisez dans ce contexte-là? Parce que donc, on a parlé d'une agriculture plus raisonnée, on a parlé donc d'un engouement pour le bio. Est-ce véritablement la solution? Est-ce que l'on peut trouver une voie moyenne, Marc Dufumier?
Non, l'agriculture high-tech de demain, ce sera pour avoir de l'énergie dans notre alimentation, faisons l'usage intensif des rayons du soleil, puisque la photosynthèse, c'est la plante verte intercepte l'énergie solaire, fabrique de l'énergie alimentaire. Donc on va faire un usage intensif de ce qui est renouvelable et ne nous coûte rien. Couverture végétale maximale, tous les rayons de soleil tombent sur des feuilles vertes, transformant l'énergie solaire en énergie alimentaire. C'est énergie alimentaire, c'est de l'amidon, c'est du sucre, c'est des lipides, des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique. Ne me dites pas qu'on manque de gaz carbonique, c'est pléthorique. Donc on va faire un usage intensif de ce gaz carbonique. La plante prend le carbone, libère l'oxygène, c'est bon pour nos poumons, fabrique le sucre, l'amidon, les lipides, et même de la paille, des racines, et même séquestre du carbone dans l'humus des sols. Faisons un usage intensif de ce gaz carbonique. Pour les protéines, on a besoin d'azote, 79% d'azote dans l'air. Je suis désolé, il y a des légumineuses qui peuvent intercepter ça. Alors tiens, justement, on en était déficitaire. Ces fameuses légumineuses, vous savez, le trèfle Saint-Foin dont je parlais tout à l'heure, capable d'intercepter l'azote de l'air, de fabriquer directement ces protéines pour notre consommation et la consommation animale, et de fertiliser les sols en azote pour les cultures qui vont suivre dans la rotation. Mais qu'est-ce qu'on attend avant de remettre des légumineuses? Et puis maintenant, on a besoin d'éléments minéraux, calcium, potassium, phosphore. Ça, c'est les racines d'arbres qui vont aller chercher en profondeur, là où n'atteint pas la racine de blé. la roche est altérée, elle libère des éléments minéraux, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille remonte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Et puis un jour, je vous parlerai des champignons mycorhiziens qui sont capables d'aller débusquer des éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile. On manque pas de solutions alternatives, cher monsieur.
Non, mais alors ça, ce sont des solutions, ne le prenez pas mal, hein, Marc Dufumier, des solutions d'agronome. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a donc peut-être ces solutions qui fonctionnent très bien sur le plan théorique ou sur le plan pratique quand on les met en œuvre. Mais aujourd'hui, qui peut décider de faire en sorte que les agriculteurs s'orientent vers ces solutions-là? Y a-t-il en quelque sorte une planification, une orientation des agriculteurs, et qui peut la prendre en charge?
Nous tous. Le consommateur, quand il décide de manger sainement, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, sans antibiotiques dans la viande, quand il fait des choix d'une production, par exemple, labellisée bio, eh bien, aujourd'hui, vous savez que la consommation bio, ça croît, il y a une croissance à deux chiffres, hein, annuelle, et malheureusement, on importe de plus en plus de produits bio pour satisfaire cet accroissement de la demande. Mais il y a donc bien un effet déjà macroéconomique de nos comportements individuels comme consommateurs. Et puis, il y a des associations qui permettent de commercialiser en circuit court des produits bio, etc. C'est les AMAP, c'est les marchés paysans, c'est autre chose. Et puis peut-être, on croit, je vous en parlerai un peu ultérieurement, des associations qui aident à des jeunes agriculteurs à s'installer, à acquérir des terrains en Ile-de-France ou ailleurs. On dit les terres de liens, par exemple. Oui, donc c'est nous comme consommateurs, notre comportement individuel, c'est le réseau associatif, les associations de parents d'élèves qui exigent du tout bio à l'école pour que les gamins ne soient pas exposés aux perturbateurs endocriniens, parce que l'exposition aux perturbateurs endocriniens, on leur prédit à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé de 10 ans inférieure à ma génération, hein, d'une dizaine d'années inférieure. C'est-à-dire c'est Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, qui, c'est une prédiction scientifique, c'est pas statistiquement avéré, on verra dans 60 ans, statistiquement, quand est-ce qu'arrive Alzheimer, Parkinson chez les jeunes. Mais n'empêche que c'est déjà prédit, un peu comme il y a 30 ans, on nous prédisait le réchauffement climatique. Donc oui, aujourd'hui, il faut s'inspirer de l'agroécologie scientifique, et c'est un changement de politique agricole, c'est les citoyens qui vont faire pression.
Bon, alors, on verra pour ces conséquences funestes que vous êtes en train de prédire, Marc Dufumier. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'un agriculteur, il est confronté à un problème extrêmement concret, celui donc de revenus extrêmement faibles. Je le rappelais tout à l'heure, même s'il y a eu une légère augmentation, on est en moyenne à 15 000 euros par an de revenus. Une augmentation de 2 000 euros qui est liée en fait à une diminution des charges qui a été engagée sous le gouvernement de François Hollande. Donc on voit qu'on a affaire à des revenus qui sont modestes, des investissements qui sont importants et une filière qui a des prix de marché qui sont trop bas pour que les individus gagnent leur vie. Ce qui veut dire que finalement les seuls agriculteurs qui ont une propension à s'en sortir sont ceux qui transforment leur récolte et qui ne dépendent pas des cours mondiaux. Est-ce bien normal d'en venir là? Et contre cela, qu'est-ce que la France peut faire? Parce que là, le consommateur, il a beau vouloir consommer de bons produits, et il n'agit pas complètement sur la filière agricole.
Absolument. Alors, ces agriculteurs qui ont des revenus très faibles, de plus, se sentent stigmatisés. On leur dit les algues vertes, donc c'est bien vous. Les subventions, c'est bien nos impôts. Le désherbant dans l'eau du robinet, c'est insupportable, hein, il faut être clair. Et les paysans sont aussi victimes parfois de l'emploi de ces pesticides, hein, on l'a vu. Donc c'est franchement insupportable. Donc il nous faut réaliser une vraie révolution agricole avec de bons produits. Alors un bon produit de terroir ou labellisé bio, l'agriculteur fait confiance parce qu'il y a une certification par une tierce partie et il est prêt à payer un peu plus cher. Mais alors du coup, comment rendre accessibles des produits de qualité aux couches modestes? Alors je pense qu'il n'y a pas d'autre issue que de payer les agriculteurs pour leurs services d'intérêt général, les services environnementaux. C'est-à-dire que quand ils séquestrent du carbone dans l'humus des sols, ils contribuent à atténuer le réchauffement climatique, ils donnent une stabilité structurelle des sols, ça évite l'érosion, ça évite éventuellement les inondations dans la vallée. Voilà un service d'intérêt général. Ben écoutez, moi je suis prêt à payer pour que les agriculteurs nous rendent ce service. Quand on remet des légumineuses dans nos rotations de nos assolements, ça nous évite des importations de gaz naturel russe, énergie fossile, ça nous évite les émissions de protoxyde d'azote, ça nous évite les importations de soja transgénique. Écoutez, c'est un service d'intérêt général. Je suis prêt à payer. Quand ils nous mettent des haies qui hébergent les coccinelles, qui vont même neutraliser les pucerons et ça nous évite des pesticides, voilà un service d'intérêt général. Les agriculteurs méritent d'être rémunérés pour les services d'intérêt général.
Et Cette année, avec le Salon de l'agriculture, on voit naître une nouvelle polémique sur le bio. Donc, on pensait que le bio, c'était la panacée. Et puis, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de grands élevages bio. Par exemple, on évoquait les poulaillers industriels. On se disait que c'était réservé à une certaine forme d'élevage dont on ne voulait plus. Et puis, on se rend compte que dans l'élevage bio, il y a également ce type de poulailler. On nous ment, Marc Dufumier ?
Non, alors, il est clair que acheter un produit bio, quand même, pour éviter l'antibiorésistance, c'est-à-dire éviter d'avoir des antibiotiques dans la viande et des perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, c'est quand même salutaire. Mais oui, le cahier des charges de l'agriculture biologique, quand elle a été unifiée à l'échelle européenne, a permis un peu l'agrandissement des élevages. Et là-dessus, les Français sont inquiets. Et c'est vrai quand même que les élevages en espace confiné, de trop grande taille, avec les risques de pollution qui peuvent se faire, c'est pas forcément génial.
Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on achète bio, bon, on achète souvent un produit plus cher que le produit traditionnel, on est en revanche pas certain, d'une part, d'avoir un produit de qualité, et puis d'autre part, d'avoir un produit qui est, je dirais, élevé, fabriqué de manière éthique.
Alors, certains, on n'en est jamais, hein, l'incertitude existe, mais il y a quand même le bio par rapport au conventionnel, si vous voulez, pour votre santé, c'est quand même décisif, hein, faut être très clair. Mais oui, le bio peut se perfectionner, il peut se perfectionner dans ses conditions environnementales, ses conditions sanitaires des aliments, et puis, alors effectivement, il y a un autre problème, c'est l'équité dans les revenus. Aujourd'hui, il y a presque deux certifications, si vous voulez, il y a une certification pour des produits labellisés bio, et il y a une certification équitable pour des produits où le consommateur peut être assuré que la rémunération de l'agriculteur sera juste. Deux certifications pour la qualité d'un produit, c'est un peu beaucoup, mais on n'y échappe pas. Autrefois, les pionniers de l'agriculture biologique avaient mis des conditions sociales d'équité dans les revenus, dans leur cahier des charges. Mais quand ça a été unifié à l'échelle européenne, ça a été un peu oublié. Et du coup, on se retrouve devant une double labellisation, double certification, et bio, et équitable.
Et le bio qu'on importe ?
Alors, il est quand même certifié, hein, y compris les certificateurs français peuvent se déplacer là-bas, ou parfois ils sous-traitent à des compagnies là-bas en question. Mais à l'échelle européenne, le cahier des charges est quand même commun. Les rigueurs dans la certification peuvent peut-être varier un peu d'un pays à l'autre. Mais même s'il y a des incertitudes, hein, il faut le reconnaître, hein, c'est quand même plus prudent que d'acheter les produits conventionnels.
Et puis alors, les agriculteurs en France se plaignent parce qu'ils disent que les aides à la conversion au bio, les aides générales versées pour ceux qui veulent commencer dans le bio manque à l'appel, qu'il n'y a pas véritablement de soutien à cet égard. Est-ce vrai, Marc Dufumier ?
Oui, alors c'est très vrai. Il y a des aides en principe à la conversion. Alors conversion, le mot j'aime pas beaucoup, ça fait très religieux. Hein. On change de religion, c'est pas ça du tout la question. Hein. Le bio, c'est pas une religion. Hein. Mais c'est vrai que dans
chez certains,
oui, mais d'ailleurs ça fait le plus grand tort à l'agriculture bio que de l'idéologiser. Non, la vraie préoccupation, c'est la qualité sanitaire des aliments, la préservation des abeilles, la biodiversité, éviter l'érosion des sols. Hein. C'est là où quand même elle manifeste sa supériorité, l'agriculture labellisée, biologique. Mais oui, les deux premières années, quand vous passez au bio, ça se traduit par de moindres rendements, ce qui ne veut pas forcément dire tout de suite de moindres revenus. Hein, parce que le passage, par exemple, dans l'élevage laitier à l'herbage en Bretagne, le passage de l'agriculture conventionnelle à justement cet élevage pâturage et bio, vous accroissez votre revenu, même si le rendement en lait à l'hectare a diminué. Non, donc soyez sans crainte.
On va continuer à en parler, Marc Dufumier. Votre prochain livre, L'agroécologie peut nous sauver, aux éditions Actes Sud. Et on va en parler dans une dizaine de minutes avec une agricultrice, Laure Daffin. Elle gère la ferme de Ballon en Côte d'Or. Et c'est une agricultrice qui appartient au réseau Terre de Liens. On va évoquer avec elle justement ces nouveaux modèles agricoles. Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils offrent? Et quels sont donc leurs avantages dans cette évolution, peut-être dans cette révolution du modèle agricole français? Il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 8h23, on reparle du malaise agricole, des évolutions et des révolutions. Nous sommes en compagnie de Marc Dufumier, agronome, professeur honoraire à l'AgroParisTech et président de Commerce Équitable France. Votre prochain livre s'intitulera « L'agroécologie peut nous sauver » et il sera publié aux éditions Actes Sud. À côté de vous, une agricultrice qui a d'ailleurs le bracelet du Salon de l'agriculture, Laure Darfin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante de la ferme de Ballon en Côte d'Or et vous êtes membre d'une association Terre de Liens. On va expliquer aux auditeurs ce qu'est Terre de Liens. Je vous ai invité parce que vous êtes assez représentatif de ces nouveaux agriculteurs et pour que vous puissiez nous exposer tout d'abord ce que vous faites et pourquoi vous avez choisi la vie d'agricultrice, puisque après tout, nous les journalistes n'arrêtons pas de dire que la situation des agriculteurs est morose, que celle-ci se dégrade. Vous avez fait un choix qui est un choix surprenant dans ce contexte, vous n'êtes pas du tout née agricultrice.
Oui, tout à fait. Dans le jargon, on appelle ça hors cadre familial. Donc non, mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. J'ai fait ce choix privé et professionnel simplement parce que j'ai un petit garçon qui a un trouble autistique et trouver un travail qui permet d'être présente, quels que soient les horaires, c'est assez compliqué. Donc du coup, dans tout ce que j'aimais faire et que je savais faire, l'agriculture était finalement la solution la plus pertinente.
Mais ça n'est pas le choix de la facilité. Comment avez-vous fait pour vous installer? C'est peut-être là que l'on va parler de Terre de Liens et de ce que fait cette association. C'est quelque chose d'un peu particulier, ça mérite d'être exposé, Laure Darfin.
Alors, Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui récolte donc de l'argent citoyenne. Et avec cet argent, la foncière et la fondation achètent des surfaces agricoles et les mettent en location à des agriculteurs. Et nous, en fait, on a des obligations. On signe un bail rural environnemental qui n'est pas le bail agricole normal. Et dans ce bail rural environnemental, il y a un état des lieux, en fait, de toute la biodiversité qui est présente sur les terres. On a l'obligation d'être au minimum en bio. On peut faire mieux, on peut faire Déméter ou Nature et Progrès.
Déméter et Nature et Progrès, il faut définir.
D'accord. Alors, dans les labels de l'agriculture, on va dire écologique, la base, c'est le bio, que je pense que tout le monde connaît.
Oui.
Voilà. Et ensuite, il y a des labels qui sont plus poussés, plus pointu.
Et Déméter, c'est Déméter. Très très poussé.
Oui, et Nature et Progrès, et tout autant.
Déméter, c'est du biodynamique, je crois.
Et tout à fait.
Biodynamique, là aussi, pour exposer aux auditeurs, c'est une manière d'envisager le bio qui va au-delà.
Qui prend en compte les aspects environnementaux. En fait, on travaille avec la Lune, avec les énergies cosmiques et telluriques, et on fait des préparations énergétiques. On essaye d'être dans le vivant le plus pointu possible.
Donc, vous voyez, Marc Dufumier, tout à l'heure, on parlait du bio, je vous disais, c'est presque une religion, ceux qui sont en biodynamique pour faire du vin ou ce genre de choses, là on touche à une vision qui est une vision souvent un peu mystique de la nature.
Alors le scientifique, oui, le discours de la biodynamique, hein, je veux dire, le scientifique n'y adhère pas d'emblée. Pour autant, faut-il mépriser des gens qui pratiquent notamment les fameuses décoctions en question? À partir du moment où on voit que les gens ont cette pratique depuis un certain temps et que ça marche, je pense que les scientifiques se doivent d'expliquer les pratiques, même si le discours de la biodynamique leur est incompréhensible.
Ah non, je n'ai pas du tout dit qu'il fallait le mépriser, d'autant qu'il y a d'autres pratiques aussi dans la biodynamique. Il y a aussi une manière de soigner les bêtes avec des huiles essentielles, bref, des choses qui,
oui,
sont,
qu'on fait aussi en
qui sont effectivement tout à fait respectables. Donc, vous avez fait appel à Terre de Liens. Terre de Liens, donc, c'est une sorte d'association qui est une foncière, qui propose donc différents lieux, des lieux qui sont achetés par cette association et qui sont ensuite loués à différents fermiers, différents exploitants, à l'instar donc de la ferme que vous gérez, la ferme Ballon en Côte d'Or, Laure Darfin. Mais alors j'imagine que Terre de Liens essaye de trouver des fermiers qui sont à la hauteur des exploitations. J'imagine qu'on ne se contente pas d'appeler cette association pour se retrouver quelques instants plus tard à la tête d'une ferme.
Pas du tout. Oui. C'est l'énorme avantage en fait d'être une ferme Terre de Liens. Je voudrais quand même revenir sur pourquoi on choisit finalement d'appeler Terre de Liens pour l'acquisition de nos surfaces. c'est typiquement, je ne suis pas issue du monde agricole et je n'ai pas le besoin suprême d'être une grande propriétaire terrienne. Et au-delà de ça, si je travaille pendant toute ma carrière professionnelle à avoir une terre saine et riche en biodiversité, à la fin de ma carrière professionnelle, rien ne dit que ma fille ou mon fils reprendra derrière moi. Et cette terre peut retourner dans le pot commun et peut être tout à fait attribuée à quelqu'un d'autre qui n'aura pas du tout la même vision de cette agriculture écologique. Donc Terre de Liens finalement va être un garant, puisque une fois qu'ils ont acheté ces surfaces, ils ne les revendent pas. Et si demain j'arrête pour une bonne ou une mauvaise raison, c'est pas la question, c'est un autre agriculteur qui aura les mêmes obligations et donc les mêmes valeurs de Terre de Liens qui reprendra ces surfaces après moi.
Et alors comment s'y prend-on? Comment vous y êtes-vous prise pour trouver donc cette ferme via donc le mouvement Terre de Liens?
Alors, quand on n'est pas issu du monde agricole, l'accès aux surfaces est assez compliqué. Donc, quand des terres se libèrent et que on peut y prétendre pour les acheter ou pour les louer, à ce moment-là, on contacte l'association régionale Terre de Liens. Il y a tout un dossier qui se monte pour savoir si notre projet est viable. Si notre projet est transmissible, c'est-à-dire que typiquement si demain j'arrête, c'est ce que quelqu'un d'autre que moi est capable de vivre sur la surface que Terre de Liens va acheter. Ensuite on monte ce dossier et il remonte au niveau national, donc foncière, où il est, j'ai envie de dire, trituré pour s'assurer que le projet est bien viable. Et du coup, c'est une commission nationale qui décide, ok, Terre de Liens achètera, ou oui, mais il faut modifier tel aspect ou tel aspect du dossier, ou ah non, 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 Terre de Liens n'achètera pas.
Qu'est-ce que vous avez proposé, vous, comme projet lors d'Arfin? Qu'est-ce qu'il y avait qui a emporté la conviction du mouvement?
Alors déjà, il y a la région. Je suis la première ferme Terre de Liens du département de la Côte d'Or. Donc, c'est, rien qu'en soi, c'est une petite victoire. La ferme, en fait, est composée de 20 hectares. Donc, Terre de Liens en a acheté 12,5. Parce que j'avais, mon mari avait déjà des surfaces. Donc, et j'en ai acheté, moi, une petite partie.
Parce que votre mari était déjà...
Oui, agriculteur, mais ce qu'on appelle cotisant solidaire, c'est-à-dire que tout petit agriculteur. Et donc sur ces 20 hectares, l'idée que j'ai défendue à Terre de Liens, c'était une ferme très diversifiée. Et dans mon esprit, tout se tient. Ça veut dire que je fais de l'apiculture, donc j'ai des abeilles, mais j'ai également des bovins, donc des vaches bretonnes pinoires, qui n'est pas du tout la race bourguignonne classique, des chevaux de trait pour la traction
animale.
Pourquoi
vous avez choisi cette race de vaches?
Justement parce que les terres auxquelles je pouvais accéder sont des prairies humides collées à la forêt de Citeaux. Et pour pouvoir assurer une bonne gestion de ces pâtures, je ne me voyais pas avoir des gros bovins. Et comme je ne voulais pas les alimenter en céréales, je souhaitais avoir une race très rustique qui se nourrit uniquement à l'herbe et qui est parfaitement capable de faire un lait riche ou une viande persillée uniquement nourrie à l'herbe.
Vous avez donc des chevaux de trait, mais alors ça c'est pour votre usage au sein de l'exploitation?
Alors, pas encore, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on est éleveur, on est un petit peu utilisateur en attelage de loisirs, ce qu'on appelle. Donc notre travail, en gros, c'est de faire naître des poulains de trait. On les emmène en les éduquant jusqu'à 3 ans et ensuite ils sont vendus pour ce qu'on appelle la traction animale. Donc principalement dans la vigne, mais aussi dans le maraîchage. On a des chevaux de trait qui pourraient aller en débardage, mais mon modèle à moi de chevaux de trait va pas vraiment en débardage.
Débardage?
Oui, donc en fait, on peut débarder les bois, mais sur les zones sensibles.
Ah oui, donc il faut que ce soit des chevaux déjà assez solides.
Exactement, tout à fait. Mais sur les... personne ne se préoccupe beaucoup des sols en agriculture, mais je pense que personne ne se préoccupe tout court des sols en forêt. Et du coup, il y a des zones qui sont vraiment très vulnérables et le cheval y a toute sa place, par exemple.
Mais alors, ça justement, Marc Dufumier, vous qui êtes agronome, le fait d'utiliser des chevaux de trait, est-ce que c'est un retour en arrière? Est-ce que c'est au contraire une solution plus rationnelle par rapport à l'utilisation d'engins mécanisés?
Non, un retour en arrière, bah évidemment, autrefois, on utilisait les chevaux de trait, pour être honnête. Mais non, ça peut être une solution très actuelle. Ça nous évite de l'énergie fossile, c'est... Non, aucun problème.
Mais alors,
ça peut faire partie du
high-tech. J'imagine que c'est un procédé plus lent que l'utilisation donc d'un tracteur ou d'autres outils mécanisés.
Oui, non, mais il y a toutes les solutions. On parlait dans la vigne, parfois on n'est pas obligé non plus de la travailler. Un travail excessif du sol peut être dommageable. Moi j'ai vu, à Saint-Émilion, j'ai vu des petits robots à panneaux solaires hein, qui se réveillent le matin avec le soleil, qui s'endorment le soir avec à la tombée de la nuit et qui sont capables, effectivement, je dis pas de désherber dans le sens arracher les herbes entre la vigne, mais de la faucher, de lui empêcher une extension majeure. Et ce tapis herbacé protège la vigne de l'érosion, les sols de l'érosion. Oui, oui, non, non, le, entre chevaux de trait, petits robots à panneaux solaires, non, non, on est dans le high-tech.
Laure Darfin, il y a aussi quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que si vous êtes passé par Terre de Liens, c'est en raison donc de l'accord, de la philosophie du mouvement et de votre esprit de future exploitante, mais c'est aussi parce qu'il est extrêmement difficile de trouver des terres. Alors peut-être que les auditeurs se souviennent d'avoir étudié lorsqu'ils étaient à l'école ce qu'on appelle des SAFER, bref, des organismes un peu mystérieux qui s'occupent de récupérer les terres et a priori qui sont là pour accompagner les agriculteurs dans leur démarche, parce qu'il faut des surface minimale pour s'installer et pour installer son exploitation. Vous avez eu une bonne expérience avec les SAFER ?
Mitigée, je dirais. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que de mémoire, la France est le seul pays à avoir un organisme qui, de type SAFER. Donc la SAFER en fait regroupe des élus, une banque, une assurance, MSA, notaire, etc. Et ensuite, sur des comités techniques départementaux, on a tous les syndicats agricoles qui sont représentés. Et l'objectif, c'est de dire, si des terres se libèrent, au lieu que les plus riches, finalement, y accèdent en les achetant et ne fassent qu'agrandir les surfaces, on va redistribuer. Selon finalement une grille, des critères, avec des critères prioritaires, pour s'assurer que on maintient finalement une agriculture française stable.
Donc plein de bonnes intentions.
Tout à fait. Le problème, c'est dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément de pressions qu'on appelle de la profession. Ces pressions font que quand on n'a pas un modèle classique de l'agriculture de son département, finalement, on se retrouve assez rapidement rejeté. Et par des moyens plus ou moins sympathiques. Donc ça va de chantage, ça va menace. J'ai quand même été suivie par deux 4x4 pendant plus d'un mois. J'ai eu la chance inouïe d'avoir les barrières ouvertes de mes bovins et de mes chevaux. J'en tremble tellement ça m'agace. Donc il y a des pressions assez difficiles, simplement parce que on correspond pas à un critère. Des critères classiques de l'installation. Et une ferme de 20 hectares très diversifiée, tenue par une femme, ça passe pas très bien.
On entend donc dans cette expérience évidemment très désagréable de Laure Darfin, Marc Dufumier, et bon, les choses se sont mal passées, ce système des SAFER, alors il n'est pas toujours aussi critiquable qu'il y apparaît dans cette expérience-là, mais en tout cas on dit que c'est un système assez opaque, qu'on comprend mal son fonctionnement. Vous le comprenez mieux, vous qui êtes agronome, Marc Dufumier?
Non, je comprends pas mieux. Alors ça dépend quand même des départements, il nous faut être honnête. Mais oui, dans beaucoup trop de cas, les SAFER exercent leur droit de préemption, mais pas pour les causes pour lesquelles elles doivent correctement exister. Il nous faut être honnête. Oui, il y a de très très gros problèmes. L'intérêt, je vais vous dire, de l'association, y compris Terre de Liens, quand elle commence à intervenir, à étudier les dossiers, etc., c'est qu'au moins les élus qui participent aux SAFER sont au courant avant que le dossier soit bouclé. Parce que jusqu'à une date récente, les élus, quand on leur disait « Mais pourquoi avez-vous laissé faire une telle chose ?», ils disaient « Bah oui, mais du coup, c'est le jour du vote qu'on a eu accès au dossier. » Donc, la seule présence de l'association Terre de Liens peut aider quand même à ce que ces choses-là qu'on a dénoncées interviennent de moins en moins souvent.
Laure Darfin, donc je l'ai dit, vous êtes installée dans une ferme, la ferme Ballon en Côte d'Or. Vous êtes notamment apicultrice et comme avec Marc Dufumier, nous avons évoqué la paupérisation des agriculteurs, leur difficulté à vivre avec donc à la fois des besoins importants capitaux, puisque il faut beaucoup de matériel, il faut des terres pour exploiter et pour gagner sa vie, et puis de l'autre, des possibilités de revente qui se font bien souvent à des cours très inférieurs au coût de revient. Vous, comment vous en sortez-vous? Qu'est-ce qui vous fait vivre finalement aujourd'hui?
Alors, la particularité d'avoir une petite ferme, c'est que on a, alors moi j'ai le plaisir, mais l'obligation de bien l'organiser. Donc je ne suis que en vente directe, ce que d'ailleurs Terre de Liens apprécie. On ne peut pas mettre nos productions sur les marchés mondiaux.
Vous n'avez pas le droit.
Non, clairement pas. C'est une des valeurs de Terre de Liens, c'est de défendre une agriculture vivrière, donc qui nous convenait très bien. Donc ça va être vendre en direct à la ferme, ce que disait Monsieur Dufumier à l'instant.
C'est-à-dire
en
que votre miel, par exemple, vous le vendez notamment
localement
sur l'exploitation.
Oui. Au marché d'une ville du coin, je vais le vendre sur des foires bio, il peut partir en magasin bio, pas de problème, je peux en envoyer en colis postaux si on m'en demande, mais du coup je ne vais pas partir sur des filières très longues où finalement mon miel part en fût, en très grand fût, migre via des entreprises nationalisées et ensuite est redistribué ici ou ailleurs dans des pots où du coup mon miel est mélangé avec tous les autres, quoi.
Marc Dufumier, là on voit malgré tout que c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que bien souvent aujourd'hui les agriculteurs qui s'en sortent sont les agriculteurs qui maîtrisent la totalité de la filière, ce qui est problématique pour ceux qui vendent leur lait auprès d'une coopérative, bref, sont soumis aux cours mondiaux.
C'est un peu la question, hein, c'est que là, aujourd'hui la demande en produits bio est très élevée, donc les prix des produits labellisés bio est encore assez élevé, mais on découvre souvent que c'est les grandes et moyennes surfaces qui profitent de ce prix élevé et ne rémunèrent pas forcément les producteurs à un prix équitable. D'où l'intérêt de ces circuits courts, sans trop d'intermédiaires. Et c'est ce qui aussi permet, soyons clairs, aux consommateurs qui adhèrent à des AMAP, vous savez, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, et bien de pouvoir manger bio pour pas trop cher.
Et alors concrètement, pour le miel, combien le vendez-vous et combien vous rapporte-t-il ? Alors ça c'est toujours compliqué, mais en tout cas, pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer lors d'Arfin si vous vendiez ce miel à une coopérative.
Alors très honnêtement, je ne pourrais même pas vous répondre. Si je pourrais vous répondre pour la coopérative, autant pour moi. Actuellement, je vends mon miel au kilo, 17 euros le kilo. Je ne vends que des pots de 500 grammes et de 250 grammes, puisqu'il y a très peu de gens qui vont acheter des kilos de miel. Ceux qui en ont besoin, finalement, m'appellent avant et je leur fais, je peux même faire un 5 kilos s'ils veulent. Voilà. Alors on va prendre un miel de printemps, donc je vends 17 euros le kilo. Si je le vendais sur un filière longue, je le vendrais 2,80 euros le kilo.
Voilà, donc je pense que la démonstration est faite. Et donc là, évidemment, à 2 euros et des brouettes, vous ne vous en sortiriez pas.
Ah bah pas du tout.
Parce que aujourd'hui, alors je ne sais pas très bien comment on fait la comptabilité d'une ruche, ça doit être un peu particulier, mais vous avez une idée de ce qu'il vous faut pour vivre. Et aujourd'hui, avec cette exploitation-là, vous parvenez à vivre ainsi que votre famille.
Alors pour l'instant, c'est un projet. Ça veut dire que je suis installée depuis un an et demi. Une entreprise agricole reste une entreprise on n'arrive pas forcément à se sortir un salaire là tout de suite maintenant, ce qui est mon cas. Maintenant, j'aime à dire qu'une entreprise agricole reste une entreprise puisque il faut qu'elle soit gérée et qu'elle soit bien gérée. Donc c'est des choix et l'agriculteur doit faire des choix raisonnés. Donc volontairement, mon époux a conservé son travail, on a un salaire qui tombe dans le foyer et donc il y a moins d'enjeux sur le fait que la ferme tourne tout de suite. Maintenant, je suis aidée par l'État parce que j'ai une DJA, une dotation jeune agriculteur, donc j'ai des obligations.
C'est-à-dire
Alors, ils aident en fait les jeunes agriculteurs à l'installation. C'est une espèce de contrat finalement. Notre projet agricole est de nouveau trituré pour s'assurer qu'il soit bien viable. On nous donne une somme d'argent qui est prédéfinie suivant le type de culture que l'on fait et où est-ce que
Donnez-nous un ordre de grandeur lors d'Arfin.
J'ai eu 20 000 euros à peu près. Ce qui est très bien, ce qui est vraiment super. Mais par contre, à l'inverse, on a des obligations. Et l'obligation majeure, c'est de sortir un SMIC au bout de 4 ans. Puisqu'on ne donne pas de l'argent public pour finalement dire « Ah, bah, j'ai pas réussi, merci pour les 20 000 euros, je rentre chez moi. » Donc du coup, la première année, et comme toute année d'entreprise, on investit beaucoup. Et le temps que les ateliers se mettent en place, on ne rentre pas énormément d'argent. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un an et demi, ma ferme est déjà autonome. Ça veut dire que sur mon fonctionnement diversifié en vente directe, tous les frais liés à la ferme sont payés par l'activité de la ferme.
Est-ce que vous avez eu recours par ailleurs à l'endettement ? Est-ce que cette aide-là...
Ça fait partie des choix que l'agriculteur fait ou ne fait pas. Nous, non. On a eu recours à l'endettement simplement pour pas vider nos comptes en se disant « Ok, on va quand même se garder une sécurité. » Donc oui, mais j'ai des tout petits prêts, j'ai 38 000 euros de prêts à la banque, ce qui est rien du tout. Par contre, le reste, c'est l'autofinancement et donc c'est des choix financiers que l'on fait. Et je travaille beaucoup avec des collègues agriculteurs, voisins, bio ou pas d'ailleurs, pour pouvoir mieux gérer les charges et avoir moins de charges sur la ferme.
Marc Dufumier, ce qui explique l'or d'Arfin comme modèle agricole, c'est évidemment une belle histoire, de beaux débuts. Est-ce qu'une agriculture nationale, ça peut être composée de petites exploitations comme celle-ci? Parce que donc on voit qu'il y a la possibilité de s'en sortir quand on maîtrise la totalité de la filière, mais si tel n'est pas le cas, que deviennent les autres agriculteurs? Comment envisagez-vous les choses, vous qui êtes agronome?
Alors, il y a aussi de très beaux exemples de grandes fermes, on va dire, de 100, 200, 300 hectares, qui alors se convertissent, le mot est un peu désagréable, mais à une agriculture labellisée bio, en créant des emplois, c'est-à-dire en installant les enfants, des cousins, des proches. Et c'est toujours un peu comme une diversification, peut-être pas comme celle de l'or en question, mais on diversifie, on réassocie agriculture, élevage et autres. Et oui, on peut, à partir de grandes fermes, promouvoir une agriculture labellisée bio et intensive en emploi. C'est parfaitement possible.
C'est quelque chose, effectivement, de conciliable. Ça se fait à quel prix? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les structures sont là pour que les grandes exploitations se convertissent en bio?
Alors, soyons francs, c'est possible à la condition que le fermier, l'exploitant agricole, comme on dit, ne soit pas déjà trop lourdement endetté. Parce que je peux vous assurer que quand un agriculteur est très lourdement endetté parce qu'il a acheté trois robots de traite, lui demander de diversifier sa production, c'est insupportable. Pour lui, amortir au plus vite les trois robots de traite, c'est ne faire que du lait, du lait, du lait.
Et oui, parce que Laure Darfin explique qu'elle a eu recours donc à une dotation de 20 000 euros, mais bien souvent les exploitations dépendent de budgets qui sont beaucoup plus importants, des robots de traite, un tracteur, bref, ça se compte bien souvent en dizaines de milliers d'euros et très vite l'addition est beaucoup plus lourde.
Oui, oui, c'est-à-dire que le niveau des revenus des exploitants est très faible, notamment le revenu disponible, parce qu'effectivement une grande partie de la valeur ajoutée va servir à rembourser les emprunts, payer les taux d'intérêt et ce genre de choses. Mais il est bien là le problème de l'agriculture industrielle, c'est qu'il y a une certaine inertie d'agriculteurs qui ont lourdement investi et bon, se retrouvent piégés.
Les aides au bio, est-ce que vous en avez reçu lors d'Arfin? Parce que là aussi, on se pose la question.
Tout à fait. Alors après, c'est assez régional, toutes les régions ne fonctionnent pas pareil. Bio ou pas, on a des aides, par exemple, ce qu'on appelle PCAE dans notre jargon, c'est des aides pour nous aider à créer des bâtiments. Donc, dans mon cas, j'ai créé une miellerie. J'ai pas encore créé le bâtiment qui me permet de mettre mes chevaux et mes vaches. Donc, par exemple, elles partent en pension tous les hivers chez un collègue qui a de la place. Et donc, cette miellerie est aidée à hauteur de 30% en région Bourgogne-Franche-Comté. Et ce qui est extrêmement confortable. Les outils de production sont aidés aussi en diversification. Donc, par exemple, les boîtes de mes ruches ont été aidées à hauteur de 30% aussi. Et ensuite, alors je ne peux parler que pour la région Bourgogne-Franche-Comté puisque je ne connais pas toutes les autres régions dans leur fonctionnement. Par exemple, nous, les frais de certification bio sont remboursés annuellement par la région.
Et est-ce que vous touchez des aides européennes?
Alors oui, c'est ce qu'on va appeler la PAC, la politique agricole commune. Donc, bien sûr, elle est...
À combien s'élèvent ces aides?
Alors, pour être très concrète, donc sur l'année 2018, mes aides PAC s'élèvent à 12 300 euros.
Est-ce que la réforme de la PAC, parce qu'on voit que ce sont des aides considérables, 12 300 euros, c'est un tout petit peu moins que le revenu annuel moyen des agriculteurs. Est-ce que la réforme de la PAC, Marc Dufumier, menace ces agriculteurs?
Alors il y a urgence de la réformer, parce qu'il faut être honnête, c'est pas les petits producteurs comme l'or qui bénéficient le plus de subventions. Elles sont pour l'essentiel proportionnelles à la surface.
Tout à fait.
Et donc c'est les gros qui bénéficient de ces subventions. Et précisément l'urgence aujourd'hui, c'est de réorienter ces aides de grands agriculteurs en disant vous êtes des mendiants, vous avez besoin d'argent, etc. Mais de rémunérer les services environnementaux procurés par les petites fermes.
Marc Dufumier, l'agroécologie peut nous sauver. L'or d'Arfin, j'ai pas conseillé votre miel, il n'y a pas d'éditeur. Mais enfin, c'est la ferme de Ballon en Côte d'Or. Et donc, on peut aller y acheter du miel. Et je crois aussi du pain d'épices qu'affectionnent particulièrement Aurélien Bélanger et Mathilde Serrel.